je remercierai toujours les gens qui m'ont aussi mis par terre ou cassé un peu les genoux. Parce que je ne sais pas si on fonctionne tous pareil, mais moi, je fais partie des êtres humains qui ont besoin de dire « Ah ouais ? Eh ben, tu vas voir. » C'est un de mes moteurs préférés.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pouvez retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie, être aligné ? Eh bien, être aligné, c'est être la vraie version de nous-mêmes. Pas la meilleure, pas la version idéale que l'on a l'habitude de montrer sur Instagram, mais celle que l'on est réellement, celle de la vraie vie. Sans cacher nos échecs, nos blessures, nos failles. L'alignement, c'est une rencontre avec soi-même. C'est donc évidemment le projet d'une vie. Mon but, avec ce livre, est de vous donner des pistes de réflexion, des outils et des exemples. Les miens, mais aussi ceux des personnalités incroyables que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro pour vous aider à le trouver, à l'atteindre, afin d'être véritablement épanoui. J'ai évidemment hâte de lire vos retours. Maintenant, place à l'épisode. Mon invité d'aujourd'hui enchante le cinéma français depuis des années. Papa et maman acteurs, le 7e art allait tomber dedans quand elle était petite. Pourtant, c'est à seulement 17 ans qu'elle concrétise son envie de devenir actrice. Bac en poche, elle part à New York pour réaliser des études de théâtre qu'elle finance grâce à des petits boulots. Après quelques rôles à la télévision, c'est le film « Simon Werner a disparu » qui se charge de la faire connaître auprès du grand public. Depuis, elle est partout ou presque. Clo-Clo, Radio Star, Un homme idéal et Revenant, ce qui nous lie deux mois à la maison. Ses choix de projet, sa vision du métier d'actrice, ses envies pour la suite de son parcours, secret de tournage, le temps d'une pause, elle nous dit tout sur son chemin de vie. Bonjour Anna Girardeau.
Bonjour Alexandre.
Comment tu vas ?
Je vais très bien, merci.
On va commencer ce qui est inhabituel dans ce podcast. On a toujours des pauses amicales, normalement j'attends un petit peu. Mais là j'ai eu envie de te poser une question par un ami à toi. On l'écoute.
Bonjour tout le monde, j'ai une question pour mon amie Anna Girardeau. Vous la connaissez tous pour ses nombreux rôles. Je pense à la comédie avec La Flamme, je pense à ses participations avec Clapiche et aussi prochainement sur Netflix dans un film d'action. Mais Anna, on la connaît moins peut-être pour tout ce qu'elle fait à côté du jeu. Anna, elle écrit, elle imagine, elle fédère. Elle produit, elle est extrêmement créative, elle est pleine de vie, pleine d'énergie. Je pense que c'est vraiment l'une de mes amies qui fédère le plus autour d'elle cette énergie de travail. Anna, elle est tellement occupée par tout ce qui l'anime dans l'artistique qu'il faut prendre rendez-vous pour la voir. Du coup, je prends rendez-vous avec ce podcast. Anna, c'est Vivi. Est-ce que tu es libre pour déjeuner cette semaine ? Je vous embrasse.
Qui est sur de ta copine ?
Victoria Montfort. Ça tombe bien parce qu'on déjeune ensemble demain. Donc, j'ai répondu à sa question.
Prémonitoire. C'est trop mignon ce que Victoria pose comme question. Elle dit en gros que tu n'as que peu de temps. Est-ce que tu arrives à trouver justement ce moment de pause ?
Déjà, merci beaucoup. C'est trop mignon, Victoria. Merci pour ce message. C'est beau quand des amis vous voient. C'est important parce que c'est vrai que quand on fait beaucoup de choses, il y a des moments où on se dit mais est-ce que j'ai raison de faire autant de choses ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça amène quelque part ? Est-ce que je m'agite pas comme ça ? Et en fait, je pourrais faire un quart de tout ça et ça ferait le même résultat. Mais je sais pas faire autrement. C'est ce qui m'excite aussi, c'est ce qui me tient très vivante, c'est d'être dans les projets et dans l'accomplissement des projets comme c'est comme il y a un truc. C'est comme un jeu. C'est pour ça d'ailleurs que les tournages, les plateaux, parfois c'est un peu frustrant parce qu'on doit attendre beaucoup. Et autant maintenant j'ai des rôles qui demandent une... Enfin en tout cas auxquels je donne une exigence de travail qui fait que le temps d'attente, je l'ai pas à me concentrer vraiment et à me préparer pour la scène. Mais les temps d'attente... où tu sais pas exactement quoi faire de toi, où t'as rien à faire, ça m'angoisse. Je sais pas faire une sieste, par exemple. Mon fils, mon mari font des siestes.
Toi, t'y arrives pas.
J'arrive pas, je me couche avec eux, et puis au bout de 10 minutes, je dis, non, mais je vais faire un truc. Je vais écouter un podcast, je vais regarder une masterclass sur YouTube ou...
Mais t'en as parlé à un thérapeute de dire pourquoi t'es toujours dans cette action, pourquoi t'es toujours dans la construction?
Non, j'en ai pas parlé à un thérapeute, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que je travaille avec un psy ou... Mais en même temps, c'est ce qui me rend, enfin, c'est ce qui me rend,
c'est toi, c'est,
ouais,
c'est ça,
ouais.
Tu es né et as grandi à Paris. Mm. Ton papa Hippolyte Girardot, ta maman Isabelle Otero. Et donc les deux sont évidemment des figures du milieu du cinéma. Ton papa est acteur et réalisateur, ta maman est actrice. J'ai lu pourtant que quand tu étais enfant, en fait, c'était pas du tout ta volonté de suivre leur voie, en fait.
Il doit y avoir un peu un truc de « je ferai pas comme vous de toute façon », mais en fait, si on regarde vraiment les choses, j'ai des films avec mon caméscope où je mets en scène mes copines, moi-même et mon chat depuis un très jeune âge. Et dès que Apple a commencé à sortir son iMovie, son système de montage, j'ai commencé à faire des films et en fait, je me demande même si j'ai pas voulu réaliser des films avant même de vouloir jouer dans des films. Et puis, j'avais beaucoup de reproches à l'école de toutes les victoires qui m'arrivaient. Elles étaient associées au fait que c'est parce que mes parents étaient acteurs. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu aussi rejeter mes parents en disant « Mais je veux pouvoir y arriver sans vous. Je veux y arriver au-delà de vous, séparé de vous. » Et dès que j'allais au cinéma, j'aimais tellement l'actrice qu'il y avait à l'écran que je voulais faire son métier. Donc, j'ai voulu...
Beaucoup de métiers, donc.
Beaucoup de métiers qui sont passés dans ma tête.
17 ans, on parlait de cet amour du cinéma qui est transmis évidemment par tes proches, tes très proches. Là, tu commences à te passionner réellement pour le milieu du cinéma. Tu me parlais de ces femmes. D'ailleurs, tu m'as parlé plutôt de femmes que tu voyais à l'écran. Et là, tu commences soit à faire un transfert, soit à dire qu'est-ce que ces femmes sont belles, brillantes, incroyables. On parle de Audrey Hepburn, on parle de Marlène Jobert. C'est marrant, Marlène Jobert. Encore une fois, Marlène Jobert est une actrice exceptionnelle. Il faudrait que beaucoup de gens regardent à nouveau la cinématographie de Marlène Jobert. Et pas très longtemps de ça, on avait Isabelle Nanty qui nous en parlait. C'est étonnant, elle nous disait que Marlène Jobert était vraiment une des actrices qu'elle avait préférées. Je pense que c'est un peu similaire pour toi. Est-ce qu'il y a un déclic à un moment?
Pour moi, il y avait quelque chose un peu d'inatteignable, ou alors c'était un métier qui appartenait que à mes parents. Donc, puis mon père avait un très mauvais a priori sur les actrices.
Pas les acteurs?
Non, les actrices, ses collègues de travail. Enfin, pas un mauvais a priori, mais
mauvaise expérience.
Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il avait pas envie que je devienne actrice. C'était peut-être en réaction à son ex-femme, hein, à ma mère. Voilà. Et donc ma mère, au contraire, elle me poussait. Elle, si j'avais pu commencer ma carrière à 14 ans, elle me l'aurait fait faire. Elle était, au contraire, elle avait envie de me pousser à être créative, à être... Elle avait l'impression de... Enfin, en tout cas, elle me disait, t'as quelque chose, quoi. Il faut l'exploiter, faut en faire quelque chose.
T'as une fratrie de deux frères et d'une sœur.
Ouais, du côté de mon père.
Du côté de ton papa.
Ouais.
Ton papa, c'est trois fils. Lui, il est poussé, justement, plutôt au cinéma, parce que là, tu me parlais d'actrice, ou pas vraiment. Il voulait
plutôt que vous soyez
loin de cette industrie.
Je pense qu'il avait surtout peur pour sa fille, d'une fille dans cette industrie.
Ouais.
Je crois qu'il avait peur de la manière dont, surtout à cette époque-là, comment on traitait les jeunes actrices. C'était un monde qu'il n'avait pas envie pour sa fille, ce que je comprends.
Je pense qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, beaucoup, beaucoup parlé. Ça a commencé avec le Me Too, Harvey Weinstein aux États-Unis, et puis ça fait que continuer, preuve que ce n'est pas réglé. Je pense qu'on l'a vu encore ces derniers temps, ces derniers mois. Ce problème n'est toujours pas réglé. Il y a toujours autant de non-dits qui ont pu être des non-dits dans beaucoup d'industries, dont dans l'industrie du cinéma. Donc c'est pour ça que ton papa, qui le voyait peut-être de l'autre côté, se méfiait au plus haut point pour sa petite fille.
Il voulait que je fasse Sciences Po, mon père, le pauvre. Il avait envie que sa fille fasse des grandes études. Et puis, c'est vrai que le jour où j'ai manifesté le fait que je voulais faire ça, je lui ai dit « Ouais, je veux faire rire, je veux faire de la comédie. » Il me dit « Ah, tu vas être clown, c'est génial !»
C'est ça qu'il t'a dit?
Il m'a dit ça. Puis, je suis repartie dans ma chambre, puis je suis revenue à la cuisine. Et je lui ai dit « Oui, enfin, je veux aussi faire des drames, puis des histoires d'amour. » Il fait « Ah, tu veux être actrice ?» Je me souviens très, très bien de cette scène. Et c'est vrai qu'à l'époque, ma belle-mère m'avait dit, t'as jamais manifesté un désir d'aller au théâtre, t'as même pas pris option théâtre à l'école. Et donc tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ils ont raison, je suis absolument pas légitime à vouloir faire ce métier. Qu'est-ce que je raconte? Alors que du côté de chez ma mère, c'était, mais ma fille, soit créative, soit exploite toute ta créativité.
On parle du milieu cinéma, évidemment, comme un milieu très fermé, souvent où les filles et les fils, d'eux, ont plus de chances de pouvoir réussir. Et on l'avait, il n'y a pas très longtemps, j'avais Yvon Attal, que j'aime beaucoup à ce podcast, qui me disait que lui, son souci avec son fils, Ben, que tu connais certainement, lui, son problème, c'est que c'était plus compliqué pour son fils, qui est extrêmement talentueux, parce qu'il était le fils de Yvon et de Charlotte. Toi, là-dessus, quel regard tu portes? Tu t'es dit rapidement, ça allait être un poids infini à porter jusqu'au jour où tu seras plus connu qu'eux, où tu t'es dit, de toute façon, c'est mon chemin de croix et je vivrai avec, quoi.
Je savais que de toute façon, ça allait être un passage un peu obligé, mais la presse a été très... En fait, je pense qu'à un moment donné, tu fais ton premier pas. Si t'es bien, t'es bien. Si t'es pas bien, tu te dis, écoute, t'as pas le talent de tes parents, on te donne une, deux, trois chances max, puis après c'est fini. Moi, j'ai rencontré mon agent via ma nounou. En fait, Sylvie, qui était ma nounou quand j'étais petite et qui me gardait vraiment beaucoup parce que mes parents étaient en tournage. Donc, elle dormait à la maison. On était très proches. On était tout le temps ensemble. Quand j'ai grandi, elle a cherché un autre travail et elle a trouvé un travail dans l'agence Adéquate, qui est une agente artistique, l'agence de mon agent. Et quand elle s'est mariée, ma mère et elle sont restées très amies. Ma mère était même témoin du mariage. Et Sylvie m'a invitée et m'a mis à la table de Laurent Grégoire et de Grégory Veil, qui sont les présidents d'Adéquate. Et donc j'étais à côté de Grégory.
Veil, donc, qui est devenu ton agent.
Qui est devenu mon agent. Et en fait, je lui ai dit, voilà, je pars à New York faire des études de théâtre. J'étais toute pleine de naïveté. Et il était là, bah, c'est bien ma petite chérie, écoute. Je pense qu'il l'a dit un peu en l'air, mais il m'a dit, si tu veux, on peut se voir à ton retour de New York. Et je l'ai pris au mot, c'est-à-dire que le jour de mon retour à Paris, j'ai appelé Sylvie. J'ai dit, Sylvie, est-ce que tu pourrais m'avoir un 5 minutes avec Grégory? Je suis revenue aujourd'hui, je ne sais pas, l'avion, il a dû arriver à 14h et à 15h, je l'ai appelé. Grégory a dit, bah oui, si elle veut passer, on peut parler 5 minutes. Je suis arrivée à 16h dans son bureau et je lui ai dit, bon, bah Grégory, j'y réfléchis, voilà, ça y est, comme tu m'as dit de venir, c'est bon, on peut travailler ensemble. Et il m'a dit, mais non, mais ça marche pas comme ça. Et il m'a envoyé voir des directeurs de casting, enfin, une directrice de casting en l'occurrence, et en me disant, écoute Anna, le mieux c'est que tu fasses tes cours de théâtre à Paris. Et puis, tu rencontres les directeurs de casting et puis que tu ailles dans une plus petite agence. Parce que moi, tu sais, j'ai Léa Seydoux, j'ai Louis Garrel, j'ai, je ne sais plus à l'époque exactement qui il avait, mais...
Des gros noms.
Des énormes noms. Et je me souviens, il y avait l'énorme affiche de la belle personne avec Léa Seydoux derrière lui. Et je lui dis, bah oui, je sais, c'est pour ça que je veux que
c'est
tu sois
à
toi. Parce que moi, j'avais fait une liste au lycée. J'avais fait une liste en terminale où j'avais dit, ok, maintenant, je sais ce que je veux faire. Je veux aller à New York, prendre mes cours de théâtre, trouver un appartement, trouver un boulot pour payer mes cours de théâtre.
Me marier?
Non, ça, je ne l'avais pas mis dans ma liste. Aller à Los Angeles, revenir à Paris, avoir Grégory Veil comme agent, faire un casting et avoir mon premier rôle. Et donc, je lui ai dit, non, du coup, j'ai tout fait. Donc là, tu es mon avant-dernière case à cocher. Et il m'a dit, écoute, va à ce casting cet après-midi et on en reparle. Et je suis allée à ce casting, mais je savais tellement que ça allait marcher. Ben, j'ai eu le casting. J'ai eu le premier rôle du film. Et le film est allé à Cannes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Grégory. Mais cet enchaînement, mes parents n'ont pas vraiment de rapport là-dedans, à part le fait que c'était ma nounou qui m'a eu ce rendez-vous.
Quand je parlais de ces sujets de nom, je pense que très souvent, tu t'es dit, est-ce que je suis accepté, aimé pour qui je suis, mon travail ou mon nom? Tu n'as pas senti longtemps, en fait. Tu t'appelais Girardeau, tu t'aurais appelé Leclerc, ça aurait été à peu près la même chose.
Non, je pense que ça a attiré au départ, parce qu'en plus, j'ai la gueule de mon père. Et mon père, à une époque, c'était quand même un... physiquement, enfin, il avait un truc qui a marqué une époque, quand même. Hippo,
Son prénom, son timbre de voix, ce qu'il a fait,
gueule,
évidemment.
Son truc bien et sûr. Tout. Donc, il y avait une curiosité, forcément. La fille d'Hippo, elle lui ressemble.
Ouais. Revenons à cette enfance. Tu disais qu'à 15 ans, les gens te connaissent aujourd'hui, assez libre. Tu en as fait d'ailleurs un film récemment qui s'appelle La Maison, où tu exhibais ton corps. Toi, c'était un sujet important à ces âges-là, ton corps. Comment tu as vécu, toi, ces années-là?
comme tous les adolescents, j'étais très très complexée par mon corps. Je voulais absolument grossir.
Toi, tu le montrais pas ?
Non, je le montrais pas. J'aimais pas mes chevilles, j'aimais pas mes attaches. Je me trouvais trop maigre.
Ah, c'est tes attaches que t'aimais pas.
Ouais, je faisais des massages pour grossir. Je mangeais.
Dans des massages pour grossir. Ouais. On peut faire des massages pour grossir.
Oui, j'avais une masseuse qui me massait le ventre. Parce qu'il disait peut-être que t'es angoissée, ça qui retient. Je mangeais quand même le fromage, je coupais le dessus et je le mangeais à la cuillère. Je mangeais des crêpes au Nutella le matin et le soir. Enfin, je faisais tout
pour grossir. Et ça marchait, ils arrivaient
pas. Ça a dû vraiment abîmer mon sang, mais ça marchait pas. Après, j'ai accepté que c'était mon corps et que c'était comme ça. Et puis après, j'ai appris à apprécier mon corps.
À quel moment tu l'as accepté?
Ça a mis du temps. Un peu tard, parce qu'en plus, déjà, on m'appelait Skeletor à l'école, ou la naine. Alors, ça y est, un jour, j'ai grandi, donc j'étais plus la naine. J'étais toujours Skeletor.
Mais t'es grande, aujourd'hui.
Oui, maintenant, je suis grande. En été, j'ai grandi. Je suis revenue, je fais « Alors
!» C'est plus la même, hein.
Mais, ouais, j'ai accepté mon corps. Bah, en plus, mes copines, elles avaient des seins. Moi, j'en avais pas, donc elles avaient le droit de sortir avec des garçons un peu plus âgés, un peu plus beaux. Moi, on me regardait pas. Et puis, j'ai redoublé la troisième.
Moi aussi.
C'est vrai?
Ah, c'est bon ça. Hein.
Ah, c'est bien.
Et là, tout d'un coup,
ça a changé ma vie.
Ça a changé ta vie.
Mais littéralement, changé ma vie. Je suis revenue, déjà, on me regardait autrement. Parce que j'étais
la bosse, hé. Je suis là, hein.
Il y avait un côté plus, je sais pas, plus rebelle, où d'un coup, j'avais le droit de me réinventer, je connaissais les codes. On me regardait vraiment comme la plus grande.
T'existais, en fait.
Ouais. Oui, merci à la directrice de m'avoir fait redoubler la troisième.
Autre sujet important dans ta jeunesse, c'est le divorce des parents. On a compris que les parents ont divorcé. Moi, ça m'est arrivé, évidemment, plus jeune que toi. Toi, t'avais quel âge ?
3.
Oh non, on a le même âge. On a le même âge, 3 ans.
Ah oh là là, on a plein de points communs.
Donc, toi, comment tu t'en as voulu à l'un plus qu'à l'autre ? Ça a été, t'as vécu avec les deux ? T'avais un pourcentage équilibré entre les deux parents ?
Non, pas équilibré. Non, j'ai plus vécu avec ma mère. Je crois qu'on faisait 10 jours. 5 jours. Donc 10 jours chez ma mère, 5 jours chez mon père.
Bizarre,
on a essayé 15 jours, 15 jours. Ça, je trouvais ça dur. Parce qu'au bout de 15 jours, t'es vraiment bien à la maison. Et hop, tu fais ton sac. Non, en fait, je me rends compte à quel point il y a un truc égoïste quand les parents se séparent. Parce qu'en plus, ils se plaignent l'un de l'autre. Mais eux, ils restent tout le temps dans le confort de leur maison. Alors que toi, le dimanche, t'es là, tu fais ton sac et tu pars d'une rive à l'autre, d'une maison à l'autre. Et puis, tu te réinstalles dans un endroit où t'as pas été pendant 15 jours. Et il faut refaire faut te réhabituer, et eux, ils sont là, tranquilles, pépères. Ouais, mais ton père, machin. Ouais, mais ta mère, machin. Et tu fais, ouais, mais en fait, vous me faites chier tous les deux, quoi.
Qu'est-ce que ça t'a appris ?
Un sentiment de réussir à m'adapter à des nouveaux lieux, des nouveaux endroits, à pouvoir justement quitter un lieu sans en faire tout en mettre une sorte de lourdeur, une rapidité à faire un sac qui est quand même assez extraordinaire.
Encore aujourd'hui,
bah oui, et puis ça m'a accompagnée plus tard. J'ai une envie de déménager, de changement tous les 3 ans. J'ai besoin de bouger tout le temps. J'ai aucun problème à partir sur un tournage loin de chez moi. J'adore les aéroports, En fait, j'ai ces moments de séparation entre la maison de l'un et de l'autre. Ces moments, en fait, un peu de solitude, mais de... Ben moi, je me suis rencontrée moi et j'ai appris à avoir de l'humour sur moi, de l'humour sur la vie, de l'humour sur la situation. Et j'ai toujours eu l'impression que ça m'avait apporté aujourd'hui, dans toute situation où je sois, je regarde les choses avec un petit peu de... Je ne sais pas pourquoi.
Et ta relation avec tes autres frères et sœurs, parce que tu avais de ce lit-là,
ouais,
tu étais
la seule.
Donc en fait, ce que tu vivais là, tu étais la seule à le vivre. Donc tu avais peu de choses à échanger. Est-ce que ça t'a manqué justement d'échanger avec une sœur sur ce moment-là? Parce que c'était toi qui bougeais, le reste ne bougeait pas.
J'ai toujours fantasmé d'avoir un grand frère.
Eh ben oui.
Mais après, je ne saurais pas dire, parce que je ne sais pas comment c'est de faire ça à deux. Et s'il avait été à se battre avec mon père ou avec ma mère, et j'avais dû le consoler en plus, enfin, je ne sais pas, ça se trouve, ça aurait été encore plus lourd. Alors que là, au moins, il fallait m'occuper que de moi.
Donc, ce divorce, comme n'importe quel divorce, que n'importe quel moment que nous vivons dans nos vies, impacte le reste. Et encore plus quand ça arrive dans les jeunes années, ces failles, qui sont évidemment celles que nous vivons à ce moment-là, vont faire ce qui nous devenons. Donc, toi, un moment assez intéressant, c'est que tu vas te mettre en couple. très tôt.
Ouais.
C'est la même chose pour moi. Hein. Donc, je me suis mis en couple aussi très tôt, au lycée. Toi, c'est un peu plus tard, mais c'est quelqu'un que tu avais rencontré. Donc, on parle d'Oscar Louveau ici. Ouais. Et tu vas te marier, pour le coup, très, très, très jeune.
Ouais.
Et donc, c'est justement dans une vie totalement instable. Tu t'es dit, moi, les gars, je vais faire les choses totalement différemment. Je vais mettre tout de suite avec quelqu'un, ça va durer toute ma vie et je ne ferai pas comme vous, sans aller dans l'analyse de comptoir. Est-ce que c'était ça que tu as voulu créer? Pourquoi se marier à 19?
Ce qui est très drôle, c'est que donc, j'ai redoublé l'école. J'ai redoublé à 3e parce qu'on estimait que si je redoublais, j'allais avoir une moyenne qui allait me permettre d'aller à Charlemagne, un lycée du Marais. Et que si je n'avais pas redoublé, je serais allée à Sophie Germain, qui était un lycée avec un moins bon niveau. Or, je fais cette année, j'ai la moyenne pour aller à Charlemagne, mais je passe devant Sophie Germain avec une amie. Et là, Oscar Louveau fumait une clope dans la cour fumeur.
Ah, c'est une vraie histoire en plus. Hein.
C'est vraiment une vraie histoire. Et là, il s'est passé un truc indescriptible, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu notre vie défiler devant mes yeux. Et j'ai dit à mon amie, c'est l'homme de ma vie, je vais épouser cet homme. Et donc, j'ai changé mes vœux au désespoir de mon père. Et je suis arrivée à la rentrée à Sophie Germain, ne sachant pas si ce garçon...
Il était encore.
Ou si j'allais l'intéresser. Ou si, mais au bout d'un an, ce garçon a accepté de, de prendre un café avec moi. Ça a été une catastrophe. Ça s'est très mal passé. Il était beaucoup trop sûr de lui. Et puis moi, beaucoup trop timide. Je crois que j'ai rien dit du café. Enfin, c'était affreux. Et puis, l'été arrive, ma mère m'offre un voyage aux États-Unis. On est à New York, on est le 14 juillet 2005. Et là, on est dans la rue et on tombe sur Oscar. Vraiment, par un hasard.
C'est dingue, parce que le principe de New York, c'est que tu ne rencontres jamais personne que tu connais. C'est impossible, cette ville est faite pour ça.
C'est fait pour. Là, j'arrache le bras de ma mère. Je lui dis, maman, c'est lui. C'est le garçon dont je te parle depuis 12 mois.
Tu déconnes.
Et elle me dit, oh, il est beau garçon. Chut, arrête. Et là, je dis, bonjour Oscar, ça va?
Il était avec ses parents aussi, donc?
Lui, non, il était tout seul. Bah non, il était grand.
Ah, c'est grand, hein.
Et il me dit, il m'a avoué plus tard qu'il m'avait trouvé très... J'avais un nouveau jean. On est allé faire du shopping avec ma mère. J'avais dû un peu grandir. Et puis, il m'invite à aller à une fête du 14 juillet, ce soir-là. J'accepte, évidemment. Et donc, c'est ce soir-là que nous avons commencé à sortir ensemble avec Oscar.
Donc, le premier baiser, c'est le 14 juillet 2005.
Exactement.
Dingo.
Ouais. Et c'était... j'en souviens très bien.
Mais heureusement.
Enfin, il a eu trois quarts d'heure de retard. Hein. Donc, je me souviens de ça aussi. D'avoir attendu trois quarts d'heure à Columbus Circle.
Oh, toute seule, comme ça?
Ouais, au bout de 40 minutes, je me suis dit, bon, il exagère, je pars. Hein. Et puis de là a commencé une histoire qui a eu des hauts, des bas. Mais du coup, l'année de ma terminale, j'étais allée lui rendre visite à New York. C'est là que j'ai rencontré Sheila Gray, qui va devenir ma prof de théâtre, et que je décide de rentrer, de faire cette liste au lycée, et de dire, je sais ce que je veux faire de ma vie. Je vais aller à New York, vivre avec Oscar, prendre des cours
Sheila Gray,
travailler dans un restaurant. Voilà.
Aller à Los Angeles,
revenir, rencontrer Grégory Veil, avoir mon premier rôle et commencer mon métier. Et en fait, quand on est arrivé à New York, qu'on a commencé à faire tout ça, mon visa j'avais un visa de touriste qui durait trois mois.
Ouais.
Et donc, on arrive à la fin des trois mois et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que nous, on est bien à New York, on a envie de vivre à New York. Lui, il avait la green card. Et donc, il me dit, une des options, c'est que tu m'épouses. Et dans ces cas-là, on pourra vivre...
Un mariage arrangé.
Non. Pas un mariage arrangé, mais
c'est un mariage d'amour. Oh là là
non,
là.
Mais un mariage d'amour. Un
mariage d'amour, évidemment. Ce mariage, vous allez divorcer, vous allez vous séparer un moment. Mais on est dans le monde de Hollywood un petit peu, puisque se termine bien la plupart du temps. Puisque vous allez vous remettre ensemble quelques années après, et vous avez certainement pris des directions, vous êtes rendu compte que vous étiez fait l'un pour l'autre, et vous avez aussi eu la chance d'avoir un petit que j'ai vu qui est trop beau et qui s'appelle Jazz. Mais revenons justement à ça. Tu passes ton bac, alors un point important, c'est qu'Hippolyte te dit ce que tu veux, Sciences Po, mais en minimum, ça sera un bac. Et après, tu feras ce que tu veux. Donc, toi, tu lui dis, OK, on va commencer par ça. Et là, tu te barres. Point important aussi, quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime bien normalement citer les gens qui ont été très utiles, qui des rencontres bien ici, sûr. Parce que des gens qui, parfois, pensent qu'on ne se souvienne pas d'eux et on sait à quel point ils ont été importants pour nous. Parfois aussi, c'est des gens qui... si on les avait écoutés, on n'aurait pas fait grand-chose. Et là, je pense à un professeur d'anglais
que tu avais. J'étais en train de penser à lui, c'est trop bizarre.
Monsieur
Guez. C'est fou, j'étais vraiment en train de dire... Ah, en même temps, il faut penser à Monsieur Guez, c'est trop bizarre.
Donc Monsieur Guez, il te dit quoi? Il te dit...
Tu ne parleras jamais anglais, tu n'auras jamais ton bac.
Oh, merci Monsieur Guez.
Alors, bah, merci Monsieur Guez. Mais après, j'étais pas non plus excellente en anglais. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village. J'arrivais pas avec ces verbes irréguliers, ça ne rentrait pas. Mais peut-être parce que j'avais pas non plus cette stimulation qui me donnait l'envie d'être forte. Mais cette phrase m'a tellement marquée que, et je remercierai toujours les gens qui m'ont aussi mis par terre ou cassé un peu les genoux. Parce que je ne sais pas si on fonctionne tous pareil, mais moi, je fais partie des êtres humains qui ont besoin de dire « Ah ouais, eh ben, tu vas voir ». C'est un de mes moteurs préférés. Et peut-être que quelque part, il y a eu une stimulation et un moteur d'avoir le bac, de partir à New York, de parler anglais, pour juste dire à Monsieur Guez « Vous aviez tort ».
Tu l'as revu après ?
Je l'ai revu, je suis allée le voir. Il ne se souvenait pas de moi, je crois. C'est affreux. Mais j'ai toqué à la porte de sa classe. Et je lui ai dit, regardez, Monsieur Guez, vous savez que je vis à New York en ce moment. Après mon bac, je suis partie là-bas. Il m'a dit, c'est génial, c'est très bien. J'ai toujours su que tu allais le faire. Je lui ai dit, mais non, c'est pas vrai. C'est le contraire.
Et tu en as d'autres une autre fois, c'est arrivé, ça? Quelqu'un qui t'a... Ou tu sais,
prof
ça t'a marqué?
Prof de géo, ouais, devant tout le monde, qui m'a dit, si tu crois que c'est avec ton sourire que tu vas t'en sortir dans la vie, ma pauvre petite, tu te mets le doigt dans l'œil. Alors que j'étais même pas celle qui parlait le plus dans la classe. Je me suis demandé pourquoi tout d'un coup ça tombait sur moi. Mais là,
tu t'as senti encore une fois une...
Ouais, pareil. Je me suis dit, je suis désolée pour vous, en fait, que vous pensiez comme ça. Parce que moi, j'espère que mon sourire, et en tout cas la bienveillance, ça m'amènera où je voudrais.
Plus tard, c'est arrivé encore? Plus tard? Régulièrement encore? Tu dis que ça peut arriver qu'un réalisateur, que d'un casting ou des... Encore une fois, pas qu'on dise non, c'est qu'on le dise méchamment. En fait, c'est pas ça. Moi, tous les jours, honnêtement, tous les jours, j'ai des gens qui me disent non. Donc, je me relève à chaque fois. Mais le difficulté, c'est quand les gens sont méchants, malhonnêtes.
Un jour, alors je saurais jamais dire qui, c'est bien, c'est aussi bien pour lui. Mais je me souviens d'une soirée, un des producteurs, et ils sont nombreux, de 10% la série. Ouais. J'étais avec Nicolas Maury et on discutait. Je lui pitchais une idée que j'avais eue pour un épisode. En disant, j'ai une idée d'épisode que j'aimerais bien la proposer avec Alice Izaz. Et le producteur, peut-être un peu éméché, m'avait dit, non mais Anna, on a des vrais acteurs dans la série. Hein. Et je me suis pris plein de balles comme ça, avec même Nicolas qui a fait qui était choqué de la gratuité, de la méchanceté de la phrase. Et je me souviens pareil d'avoir dit, tu vas voir.
Je termine sur cette partie de « Tu ne réussiras pas », parce que c'est un chapitre de mon livre « Pause ». Parce que je pense que, et merci de le dire, ça arrive quand même très souvent, je crois que chacun d'entre nous, toutes les auditrices et les auditeurs, il y a bien un moment, une journée, c'est arrivé, quelqu'un t'a dit, à l'école, dans ton boulot, au sport, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Et t'as deux options, soit tu dis, t'as raison et tu t'arrêtes, soit tu dis, tu sais quoi, ce que tu fais très justement. Et donc ça, c'est des sujets essentiels.
Et ça rend la victoire d'autant plus délicieuse et agréable. Et puis en fait, tu sais quoi, quelque part, c'est nécessaire aussi à te faire réfléchir autrement, à te dire, ah ok, attends, mais comment je peux y arriver? Qu'est-ce qui peut faire que je peux... outrepasser ça? Est-ce que peut-être dans ce refus, il n'y a pas des conseils aussi à prendre, à entendre? On m'a dit, tu vas réaliser ton premier court-métrage. Et quand j'ai réalisé ce court-métrage à Venise, que ce soit au moment où j'ai écrit, cherché de l'argent, réalisé, monté, j'ai ressenti une joie complète. C'est-à-dire que toutes les frustrations que je pouvais avoir quand je jouais, là, elles n'existaient plus. J'avais l'impression d'être à ma place, que ma boussole interne, elle était là où il fallait.
Tu me dis que tu retournes aux États-Unis, on continue à penser à cette liste que tu coches un par un. Donc là, tu arrives à New York. Et là, tu vois quelque chose qui est assez intéressant, selon moi, c'est que tu vois que les gens travaillent beaucoup. Et que si tu réussis, en particulier à New York, qui est vraiment une, quand on parle d'une ville qui ne s'éteint jamais, en particulier, c'est une ville où si tu veux réussir là-bas, tu ne dois jamais quitter le poste de travail parce que quelqu'un prend ta place. Là, c'est quelque chose que tu comprends en pleine tête, que globalement, il faut que tu commences très tôt, il faut que tu te couches très tard, il faut que tu fasses toujours plus que les autres.
Ouais.
Et là, tu es inconnu, hein, parce que personne ne connaît Anna, personne ne connaît Girardo.
Personne, je suis une petite fourmi dans la fourmilière.
Enfin,
j'adore ça.
C'est bon New York pour
ça. Qu'est-ce que c'est bon. J'avais l'impression que c'était un jeu vidéo. En plus, j'avais pas Google Maps, mais je faisais plein de trucs. J'étais donc serveuse dans ce restaurant qui s'appelait le Parigo, qui est fermé maintenant. J'avais mes cours de théâtre qui étaient vers Times Square. Le soir, je faisais des extras dans une boîte de nuit qui était vers la 34e. Et puis j'étais dans une agence de mannequins, donc je faisais des castings. C'était génial pour apprendre à découvrir la ville, parce que je savais que si je sortais à tel métro, après j'avais 4 blocs tout droit avec 3 blocs à gauche, puis j'ai appris à marcher dans la ville comme ça. Je me souviens, je travaillais du matin au soir tous les jours sauf le dimanche, je crois. Et en même temps, le soir, je sortais, en plus, je ne sais pas où est-ce que je trouvais cette énergie, mais il y avait quelque chose de... tous les matins, c'était comme un jeu vidéo, il faut choper des pièces, tic, 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 et on arrive à un moment donné à une victoire. Et il y avait des moments où j'étais désespérée, parce que mon anglais disparaissait, notre resto, c'était dur. Et en même temps, j'ai appris qu'en poussant l'effort, on devenait meilleur. Ça, j'avais jamais appris ça plus jeune.
Parce que t'as pas beaucoup travaillé à l'école, quand même.
Non, et en plus, hors de l'école, je faisais des activités. Et dès que ça devenait un peu dur, je disais à mon père ou à ma mère, oh là là, mais tu trouves pas que c'est un peu loin, les cours d'escalade? Oh, mais moi, j'aime pas trop. Et eux, ils étaient, ouais, vas-y, arrête si tu veux. Et du coup, j'arrêtais. C'était super, j'ai plus rien à... L'effort, oh non, j'aime pas.
Là-bas, c'est le culte de l'effort.
C'est le culte de l'effort. Et depuis...
Ça te plaît, ça t'a plu?
Ça m'a plu. C'est devenu une petite drogue un peu.
Oscar, il faisait quoi à ce moment-là?
À l'époque, il était lighting designer. Mais Oscar, il est merveilleux pour ça, c'est qu'il n'a pas... il peut tout faire.
Il n'a pas un job, en fait.
Non.
C'est ça.
Il a des gens qui adorent travailler avec lui et qui lui demandent tout le temps, est-ce que tu peux m'aider à travailler sur ce projet? Donc, il fait plein de projets. Il a fait de la restauration. À l'époque, il était aussi broker. Il était...
D'immobilier.
D'immobilier, ouais.
Après, il allait à New York, c'est pas mal pour
c'est
ça.
C'est incroyable.
Parlons des rencontres. On évoquait ça un peu plus tôt. Tu en as parlé, chez Lagré. C'est celle qui t'a fait découvrir, l'année d'avant, le théâtre. Et là... tu vas passer tous les jours à ses côtés. Donc, tu as ta petite main pour Sheila.
C'est elle qui m'a fait passer le cap. Parce qu'au bout de 6 mois, je me souviens, je gagnais ma vie. Hein. Je faisais des tips. Sauf que j'avais compris comment gagner de plus en plus de tips. Mais malgré tout, je payais, même si j'étais dans le Queens, le loyer était quand même à 1 500 $. Les cours, ça remontait à 3 000 $ par mois. Enfin, tout d'un coup, ça c'était un peu cher. Et puis, ça commençait à devenir difficile. Puis, il faisait froid. C'est ça, en fait. Moi, j'ai remarqué, ça devient difficile à partir du moment où aussi, dans le cours de l'année, c'est l'hiver. Et donc, c'est de plus en plus relou d'aller au cours. Et du coup, tu trouves des excuses et puis...
Il y a de la neige. Trouver des raisons pour ne pas aller au cours de danse, c'était assez facile. Ça,
ouais, et donc là, j'arrive devant Sheila et je lui dis, oui, Sheila, en fait, tu comprends, là, c'est trop cher. Et là, elle me dit, elle m'a sauvé la vie ce jour-là. Elle m'a dit, ah non, mais il est hors de question que tu arrêtes. Ah bon? Et elle me dit, non, tu commences à peine à progresser. Elle me dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas devenir mon assistante. Tu vas donc ouvrir la classe, fermer la classe, accueillir les élèves, récupérer l'argent, me donner l'enveloppe, aller me chercher à manger, mon café, et puis nettoyer la salle à la fin et ranger les matelas, etc. Et en échange, par contre, tu ne paieras pas tes cours. Et par contre, tu viens à tous les cours, même ceux des ados. Et donc là, j'ai commencé à travailler tout le temps avec Sheila et à être présente tout le temps. Et donc même les moments où je pleurais tellement, je savais même plus comment elle me disait speak your thoughts. Je disais, I don't know, yes, no, I don't know. Et je me sentais nulle et je continuais. Puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, le printemps est arrivé. Non, mais c'est ça aussi, c'est qu'on comprend pas que les saisons, c'est essentiel. Et bah, au printemps, je me suis dit, ah, mais en fait, je progresse, je parle mieux anglais, je joue mieux, je comprends mieux. Et puis là, du coup, l'année s'est repassée ensuite et ça a été que du bonheur. Et en fait, à partir de là, j'ai compris. Et bah, il faut pousser le muscle pour qu'un jour, t'aies le bon muscle pour dire, ah bah voilà, j'ai le muscle maintenant.
On bouge un peu parce que l'objectif, moi, je suis ta bucket list. Hein, ouais. D'ailleurs, normalement, sur pause, on suit depuis la naissance à où tu es aujourd'hui. Avec toi, on suit un peu différent. On suit ta bucket list. Bucket list, il y avait Los Angeles. Donc voilà. Oui. Donc là, on est à New York. C'est à 6000 km. Hein, donc c'est faisable. Donc là, road trip,
je me souviens très bien. J'ai acheté un taxi new-yorkais, donc une Crown Victoria, parce que c'est des voitures qui ont une super...
Des amortisseurs.
Amortisseurs, et ça fait beaucoup de routes. Et donc, on est trois, Oscar, un ami et moi. On achète notre Crown Victoria, on la repeint parce qu'on n'a pas le droit de la garder en jaune, mais on garde le petit billet de $10 qui est sur le pare-soleil. Et on part comme ça, on traverse, on fait Washington, Nashville, New Orleans, Texas, New Mexico, Las Vegas. Là, on se fait braquer la voiture.
Elle était au parking et c'est...
Parking, le seul parking qu'on a fait, seul hôtel cher du voyage, alors qu'on a vraiment dormi dans des motels, on a fait du camping, Là, on s'est dit, ok, on a peut-être mérité, ça faisait un mois qu'on voyageait, on s'est peut-être mérité un petit hôtel, on s'est arrêté au Circus, tout volé. En plus, on est sortis comme des fous, on s'est dit, on laisse tout et on prend le strict minimum et on va faire la fête.
Ouais,
la voiture cassée. En plus, on avait la voiture la plus pourrie de tout le parking. Et je pense que, par contre, du coup, c'était super accessible. Et là, on est un peu paumé. Et heureusement, ma mère me dit, j'ai une amie à San Diego qui peut t'accueillir. Et donc, on est arrivé. Elle nous a accueillis chez elle, le temps qu'on répare la voiture. Et elle nous a aidés aussi, quand on est arrivé à Los Angeles, à faire notre dossier. Parce qu'il faut des gens un peu comme qui te font caution.
Bien sûr.
Et donc, elle nous a aidé à être caution pour notre appartement et tout. Et donc, on est arrivé finalement à Los Angeles.
Après ce périple,
avec notre Crown Victoria.
Et là, ça n'est pas le bon moment pour arriver à Los Angeles.
Et non,
parce que
c'est la crise.
Tu as deux choses. Tu as une crise économique forte, parce qu'on est en 2008. Donc une crise, mais si, une grève qui arrive régulièrement aux États-Unis, qui est une grève qui a beaucoup touché. On a connu une récemment encore, à peu près tous les 3 à 5 ans, tu as une grève, en fait, là, qui sont des scénaristes, qui sont des acteurs, qui sont de certaines populations qui sont essentielles pour faire tourner l'industrie, qui disent... On a besoin de meilleures conditions. Donc là, tu te retrouves pour aller travailler là-bas. Et là.
Bah là, il n'y a rien. Là, il y a carrément les
la
bars.
La petite Frenchie, là, ça va pas.
Est-ce que je peux travailler dans un bar? Les patrons disaient non, mais je fais tout. Moi, je fais la cuisine, le service et la caisse. Et donc, on avait quand même des petites économies avec Oscar. On avait un tout petit appartement, mais tellement joli. Mais vraiment, c'était une pièce d'un studio avec une kitchenette. Mais la cuisine, elle donnait sur le Hollywood Sign. Pour moi, c'était l'endroit le plus magnifique du monde. J'adore cet appartement. Je l'ai revu cet hiver, je suis retournée à Los Angeles avec Oscar. Et on est repassé devant et on s'est dit, waouh, c'était un palais cet endroit. C'était un palais. C'est tout petit. Mais donc on a ces économies qu'on commence à dépenser. Puis on est seul. Oh là là, Los Angeles, quand tu connais personne, mais c'est la solitude. T'as beau te balader et tout, c'est vraiment... on s'est dit, bon... Et
puis très déshumanisé, très grand.
Très grand.
Pour faire d'un endroit à l'autre, c'est l'inverse de New York, en fait.
C'est vraiment l'inverse. Vraiment...
Il fait beau.
Mais
il fait beau. Là, t'es contente.
Ça, on aime. Et donc, à un moment donné, on tourne un peu en rond, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, on a ma meilleure amie de New York, qui était serveuse avec moi, me dit, appelle le frère de mon nouveau boyfriend, il va vous accueillir, et puis lui, il est connecté là-bas. Et en fait, elle est, c'est ça, il te manque une personne, et là, un monde entier s'ouvre. Et Brandon nous a accueillis, et il nous a invités directement au festival de musique...
Coachella,
exactement. Et là, on a rencontré, la terre entière.
Ça a commencé.
Et là, tout d'un coup, Los Angeles est devenu le terrain de jeu le plus magnifique et merveilleux du monde. On a rencontré des gens super, des créatifs, des photographes, des cinéastes, des gens de la musique, tout ce qu'on avait imaginé. On a été invités dans des maisons folles, des fêtes. Sauf qu'à un moment donné, du coup, toutes nos économies, on les a dépensées beaucoup plus vite qu'au départ, alors qu'on était très économes. Et là, tout d'un coup,
Vous brûlez.
Ah, on a tout brûlé.
Et là, il n'y a pas de boulot.
Et donc, à un moment donné, il n'y a pas vraiment le choix, quoi. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on...
Appeler les parents, c'était une option ?
Bien sûr. Ouais. J'ai appelé ma mère. Et elle m'a dit, justement, il y a un casting. Dans la série dans laquelle elle tourne, il y a un casting. Si tu veux le passer, tu peux le passer en visio. Et s'il y a un callback, peut-être qu'ils peuvent te payer le billet d'avion. Il y avait un truc comme ça. Mais je sais plus pourquoi, moi je pars une semaine plus tôt. C'était soit je passais mes 21 ans, parce que je suis née le 1er août, soit je passais mes 21 ans à Las Vegas avec mes amis. Bon là vraiment, je pense que je vivais à crédit. Soit je rentrais plus tôt avec cette occasion d'un billet de l'avion qu'on me payait. Donc j'ai pris cette option-là.
Très raisonnable.
Mais c'est comme ça, du coup, que j'ai rencontré Grégory et que machin, et que machin.
Mais est-ce que tu aurais pu les appeler en disant juste, est-ce que vous pouvez me financer un peu plus ?
Oui, je vais être complètement honnête.
Mes parents, j'aime bien que tu sois honnête.
Oui. C'est mieux. Ils m'auraient payé. Mais ils avaient tellement envie que je revienne, je pense qu'ils auraient dit, oui, moi, on te paye que un mois. Hein. Ou que le billet de retour. Je crois que c'est ça, je crois que ma mère m'a payé le billet de retour. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais il y a eu une date où j'ai dû rentrer.
Tu rentres ? 14h, je connais le système, t'arrives à l'aéroport. 15h, t'arrives à l'agence avec Grégory Bay. Tu vas taper et tu vas réussir ce casting. Et là, c'est l'histoire de Anna, ces dernières années. Et donc, tu commences, on te voit, donc ce film dont tu parlais, c'est Simon Bernard, hein, ouais. A disparu. Donc là, c'est quand même, pour toi, tu fais ton premier film, tu te retrouves sur la croisette. C'est quand même dingue.
C'est dingue, c'était, je me rappellerai toujours, salle de Bussy, on est dans la salle, elle est pleine, et là on voit, on n'était que des jeunes comédiens, et là tu vois ton nom, ça commence en plus sur, ça souffle sur moi qui marche dans la nuit, oh ça fait quelque chose quand même, tu fais genre waouh,
grand écran,
waouh, qu'est-ce qu'on a fait, et c'était beaucoup d'émotions, on était à la fin de la séance, on se regardait tous. Et puis en plus, c'était intimidé, la salle de Bussy, quand tout le monde applaudit, c'est beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et on se regardait comme ça, c'était tremblant. Et en plus, mon père m'avait fait une surprise, c'était caché dans la salle. Et là, déjà, l'émotion, elle est là. Et là, ton père arrive par surprise et il fait ma fille, et je suis non, maintenant je vais pleurer. Et il m'a dit un truc très joli. Il m'a dit, lui qui avait peur, l'actrice et tout. Et il m'a dit, tiens, voilà les clés de la boutique. C'était mignon.
Oh, c'est trop mignon. Mmh. On parle de casting, parce que là, tu fais deux castings, tu rentres, mais là, toi, tu penses que tu as tout gagné. Premier casting, tu fais sur la série Diane Femme Flic, donc jouée par
Isabelle Otero.
Et à côté de ça, juste après, Grégory t'envoie quelque part, tu le gagnes encore. Tu penses que là, tu dis, ça va être... Les castings, les gars, c'est fait pour
vous
moi, ça
est jeune.
Les castings, comment tu les gères ?
Comment je les envisage ?
Comment tu les envisages ? Est-ce qu'à chaque fois, tu y vas et est-ce qu'il y en a plus que tu as envie de gagner que d'autres ? Est-ce que c'est toujours le même stress ? Tu vis sans stress ?
Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur le casting de Simon Bernard a disparu. C'est que la première fois, donc ce même jour où j'arrive au casting, on ne me donne pas le rôle tout de suite. On me dit, le réalisateur est très intéressé. Est-ce que tu peux revenir demain ? Refaire des essais avec d'autres scènes et peut-être potentiellement un autre comédien. Et le lendemain, Oscar me dépose en scooter à l'adresse où j'avais été la veille. J'arrive et on me dit « Ah non, c'est pas cette adresse aujourd'hui, c'est une autre. » Sauf que j'ai laissé mon porte-monnaie dans le scooter. Et là, je me retrouve en plein mois de juillet, sans argent, et je dois aller à l'autre bout de Paris. Et j'étais habillée... En panique, il fait chaud, je commence à courir, je me dis j'arriverai jamais à l'heure, donc je me dis il faut que je prenne le métro. Là j'arrive, j'ai pas d'argent, et donc je vais voir la fille du métro, je lui dis écoutez madame, je suis désolée, en fait je suis habillée tout en noir parce que la scène est une scène d'enterrement.
Oui, oui.
Et je lui ai fait croire que je vais à un enterrement, c'est mal, je sais.
Mais c'est, tu sais, déjà de le dire, c'est à moitié pardonné. C'est moitié pardonné.
Mais du coup, je pleure. Je suis déjà
dans
la scène. D'accord. Quoi. Je suis déjà dans le perso. Elle a trop de peine. Elle me dit, bien sûr, allez-y, allez-y. Je passe, j'arrive, mais il faisait chaud. J'arrive, mais trempée. Et j'ai pas le code. J'ai plus de batterie sur mon portable. C'est une catastrophe. Et finalement, j'arrive, j'ai le casting et j'ai le rôle ce jour-là. Et depuis, c'est une blague, mais c'est une blague interne à la maison. Mais dès que je vais à un casting et il y a 1000 merdes qui m'arrivent, en général, je me dis, c'est plutôt bon signe. Et c'est vrai qu'il s'est avéré que les fois où il a été un peu un parcours de combattant pour arriver au casting, je l'ai eu. Et je pense que pourquoi ? C'est juste que ce temps-là de stress me détache du stress de la scène et de ce que je dois faire. Et donc j'arrive, je suis un peu en panique et bam, je donne. Je suis pas là,
j'ai trop réfléchi,
tout est bien et tout.
Les castings, certaines actrices, certains acteurs, ils s'y disent parfois, ils disent on n'en veut plus, on veut plus les faire. D'autres qui disent je veux absolument les faire à chaque fois parce que c'est aussi une connexion que je veux avoir avec le réalisateur. Toi, tu préfères ne pas aller voir les faire parce que t'es jugé.
Ça dépend, parce qu'il y a des fois où t'as très envie d'avoir un rôle et on te l'offre et tu fais waouh, de chance de fou. Et donc tu dis je vais pas mettre ça en péril. Imagine, je vais faire les essais et puis il fait ah non, finalement c'était une mauvaise idée. Mais c'est quand même, je trouve, plus rassurant d'avoir fait des essais, parce que sinon, le premier jour de tournage, t'arrives et tu te dis, waouh, si la scène, elle va pas, le réel, il va se dire, mais merde.
Je me suis trompé.
Donc, ça dépend, mais en fait, j'adore les exercices du casting. En fait, c'est aussi, j'ai vu Steve Carell dire ça dans un truc sur Instagram. Il a dit, non, c'est pas Steve Carell, c'est un autre acteur que j'aime beaucoup. Il a dit, dites-vous bien une chose, c'est que le casting, c'est dans les deux sens. C'est que vous êtes aussi en train de faire passer un casting au réalisateur, de vous dire est-ce que c'est un bon directeur d'acteur ou pas.
Mais toi, ça t'est souvent arrivé de dire non après que t'aies été choisi ?
Oui.
D'accord. Sur combien de castings, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien ce milieu-là, qui ont envie de savoir un peu ce qui se passe derrière, combien de castings tu fais ? Combien de fois t'es prise ? C'est 1 sur 3, 1 sur 4 ?
Ouais, 1 sur 3, 1 sur 4.
Tu penses que c'est ça?
Par exemple, Clapiche, j'ai passé 3-4 castings pour lui avant d'être prise en 1.
J'en ai fait 4
échecs. C'est-à-dire que le dernier, ce qui nous lie, j'ai dit au départ.
C'est le dernier.
Non, j'ai dit j'y n'y vais pas. J'ai dit à mon agent, non, c'est bon, ça va, il me connaît. Et il m'a vu 4 fois en casting. S'il ne me connaît pas, s'il ne sait pas à quoi je ressemble, tant pis. Et en fait, ça me fait trop mal, je ne veux plus y aller. Et j'y vais, Pio Marmaille et François Civil avaient déjà été choisis. Le casting se passe trop bien. Et je sors de l'immeuble, j'explose en sanglots. En me disant, oh voilà, je vais encore avoir mal, c'est vraiment nul. Et heureusement, il m'a appelé, je lui dis « Oui, Cédric, ça va pas marcher, c'est ça ?» Il fait « Eh bien non, Anna, cette fois-ci, c'est la bonne. » Et en fait, c'était le bon film. En fait, je préfère avoir été prise sur celui-là que sur les autres.
Et t'as été prise 2 ans après sur...
Ah oui, et puis ensuite, on a retravaillé ensemble. Oui.
Moi, j'aime bien Clapiche.
J'adore Clapiche.
Ouais, il est quand même assez dingue. On continue, Les Revenants, ça aussi c'est une série qui, là aussi, très visible, qui a très bien fonctionné, en tout cas dans la première saison, un succès critique et commercial, d'ailleurs international. Et puis là, on te voit souvent, Clo-Clo, de Florent Emilio Siri, Radio Star, de Romain Lévy.
J'étais contente de l'avoir aussi. Ouais. J'ai crié quand j'ai vu.
C'est une histoire, ça, en plus.
Ah
Clo-Clo,
ouais.
C'est...
Ah ouais.
Voilà, c'est une bio-épique sur Claude François, qui est d'ailleurs un très bon film, pour ceux qui ne l'ont pas vu et ceux qui écoutent encore souvent pendant l'été les musiques de Claude François, je vous le conseille. T'as l'impression à ce moment-là que ça va vite ou que tu considères que c'est normal ? Là, je vous rappelle, pour les auditrices et auditeurs, on est dans la première année du retour d'Anna de son épopée américaine.
Eh ouais.
C'est normal, toi ?
Il y a un truc qui me semble un peu normal, mais ça va devenir difficile plus tard. Ça se complique après.
Qu'est-ce qui se complique ? C'est que c'est plus aussi facile ?
C'est pas ça, c'est que je sens que je rentre dans une case. Je sens que je rentre dans une case et les rôles qu'on me propose, il y en a que j'accepte et que j'adore, mais je sens comment on me perçoit. Et en fait, je m'amuse de moins en moins de ces personnages. Je me dis, mais en fait, ce qu'on me demande comme jeu est de plus en plus naturaliste et de moins en moins joué. Et donc, je perds un peu l'excitation de ce que c'est. Et donc, je perds même confiance en moi en me disant, mais peut-être que c'est qu'en fait, peut-être que je joue pas si bien que ça. Peut-être que je suis pas très bonne, en fait. Peut-être que j'ai juste un visage qui passe bien à l'écran. Peut-être qu'ils avaient raison, en fait. C'est juste parce que je suis la fille d'Hippolyte Girardot. Fuck.
Tu dis ça, ces années-là, 2014,
ouais,
2015
ouais. Ouais, il y a un moment donné où je me dis un peu, en fait, je suis peut-être juste moyenne, quoi. Et puis,
c'était du bon, quoi.
Ouais, mais heureusement, ça a changé.
Ouais, mais donc ça a duré combien de temps, ça?
Ça a duré un peu, je sais pas, peut-être pendant 3-4 ans.
C'est long. Donc ouais. Là, parce que t'es allé très très haut, très vite, tu fais pas tous les ans un revenant à Clo-Clo. D'une certaine manière, c'est quand même, je veux dire, ça arrive rarement d'avoir un strike comme ça, comme on dit aux États-Unis, sur la monnaie. Donc c'est ça aussi, tu dis juste, bah, mais pourquoi.
C'est-à-dire, je suis jamais nommée au César, je vais jamais à Cannes. Alors j'adore les films que je fais, j'adore, je trouve que j'apprends à chaque fois et j'adore les réalisatrices et les réalisateurs avec qui je tourne. Mais dès que je vais en avant-première, on me dit, oh, on a envie qu'elle se secoue, hein, on a envie qu'elle se défende. Toujours, on a un peu de peine pour mon personnage. Donc, je tourne beaucoup, je fais beaucoup la femme d'eux. Et donc, je vais en promo, et puis mon partenaire masculin, il est vachement mis en avant, et puis c'est la star, et puis il est génial, et puis tout le monde l'aime, et puis il a la tchatche, et puis il a du répondant. Et moi, on me donne le micro, et c'est, bah oui, moi j'étais ravie de faire ce personnage. Tout est doux, tout est gentil, et donc ça commence à sérieusement, en fait, je me sens de plus en plus transparente, en fait.
Oui, mais ça aussi, alors c'est intéressant ce que tu dis, mais tu joues aussi avec des acteurs qui sont exceptionnels. Donc là, tu prends un Niné, tu prends un Civil,
oui.
Tu prends quand même des... Voilà.
J'ai tourné avec Omar Sy, avec Guillaume Canet, avec Gérard Lanvin, avec Pierre Niné. Enfin, je disais à mon agent, j'ai des très bons partenaires, je suis très chanceuse. Mais en fait, je me dis, mais pourquoi c'est les garçons qui ont toujours la part belle? Pourquoi c'est eux qui ont les meilleurs persos? Pourquoi nous, on est là un peu pour servir la soupe?
Et alors, t'expliques comment ça?
Bah, c'est arrivé aux États-Unis quelques années avant maintenant, et c'est, par exemple, quand on voit le parcours de Margot Robbie, bah, elle a créé Lucky Chap, sa boîte de prod, parce qu'elle disait, j'en avais marre que les personnages féminins, ils aient jamais les rôles, les partitions de rôles et marrantes à jouer, qu'à chaque fois qu'elle lisait un scénario, elle se disait, oh, j'ai tellement envie de jouer le rôle du mec. Et je pense que c'est arrivé aux États-Unis avant nous, donc même les scénaristes se sont mis à être obligés à donner du contenu et du fond aux personnages, justement des femmes d'eux, donc les personnages secondaires devaient avoir de la personnalité. C'est arrivé maintenant en France et c'est de plus en plus répandu. Et puis on féminise maintenant des personnages qu'on aurait donnés aux hommes. On comprend que, bah, que ça attire les femmes au cinéma, que c'est les premières consommatrices de cinéma.
On parle de notoriété. Comment là tu te retrouves avec une notoriété? Là, je ne parle pas de notoriété de nom, mais vraiment de visage. Que des gens commencent à rapidement, dans les années où tu arrives ici, où tu étais inconnu, à part dans un petit milieu qui pouvait rien, mais tout d'un coup, là,
Je ne suis pas
commencer.
Très reconnue. Hein.
Donc, mais entre pas du tout reconnue et plus reconnue, est-ce que tu as vu une différence? Pas vraiment. Les gens étaient
oui.
Toujours bienveillants, évidemment.
Oui.
Gestion de la notoriété, c'est pas un sujet.
Non, c'est pas un sujet. C'est c'est plus, ah ouais, bon, ça, elle fait quoi? Elle a tourné dans quoi? Donc c'est une sorte de mi-notoriété, pas notoriété. Mais par contre, je sais que dès que j'entrais dans des nouveaux cercles de gens ou que j'étais présentée dans des milieux que je connaissais personne, c'était un peu une carte joker assez bien pour rentrer. C'était, ah, elle est actrice. Alors ça fascinait un peu les gens. Et donc, ils avaient plein de questions. Et par exemple, chez les parents de mes potes, C'était la meilleure carte joker pour être tout de suite. On était un peu l'intérêt des parents. Racontez-moi. Alors, c'est comment le cinéma?
Alors, ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de ta maman et de ton papa. On parle de célébrité, donc t'es très humble, mais ton parcours depuis ces dernières années font que t'es reconnu, que t'es célèbre, que t'es mis en avant des affiches, t'es bankable, comme disent souvent les producteurs aujourd'hui, au niveau où tu as dépassé en fait la notoriété de tes parents. Mmh. Donc c'était pas du tout un objectif, mais en tout cas c'est un fait. Je me souviens qu'ici un pote que j'aime beaucoup, Mathieu Chédid, donc M, lui son papa était très connu, Louis Chédid, un musicien incroyable. Et ce moment où il a dépassé la notoriété de son papa, ça a été compliqué plus peut-être pour son papa que pour lui. Comment, quand aujourd'hui, c'est Anna Girardot qu'on reconnaît plus que Hippolyte Girardot ou que Isabelle Otero?
Mon père le vit bien, alors c'est bien. Ce qui serait terrible, c'est qu'il le vive mal et que tout d'un coup, il y a une sorte d'aigreur terrible. Au contraire, il me dit, qu'est-ce que je suis fière. Je suis le père de Anna Girardot.
J'adore.
C'est trop mignon. Mais,
maman.
Et maman, c'est marrant parce qu'on se parle beaucoup de ma carrière, de mes choix, de films. Et elle est assez difficile parfois avec moi. Elle est exigeante avec moi. Elle me dit, tu n'y es pas encore. Hein. Tu n'es pas là. Tu ne l'as pas encore le rôle. Hein.
C'est pas
personne qui a réussi à te faire aller au bon endroit. Hein. C'est pas.
Anna, je te propose maintenant une pause amicale. On va dire plutôt une pause familiale. On en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. On l'écoute.
Salut Anna, c'est moi. Bon, ben oui, ça devait arriver. Alors, je vais te poser une question en tant que collègue. Voilà. On a besoin des personnages pour vivre. C'est ça qui nous nourrit et nous excite. Et puis souvent, on se retrouve à faire des personnages qu'on a déjà rencontrés, qui ressemblent un peu à un autre qu'on a déjà fait un peu avant. Et je voulais savoir si tu rêvais d'un contre-emploi, quelque chose un peu d'inimaginable pour les spectateurs, que tu désirerais faire absolument pour changer d'air. D'air qu'on peut écrire D apostrophe AIR ou bien D'air apostrophe E accent grave RE. Bonne journée. Je t'embrasse.
Waouh.
Il est bon Hippolyte. Hein.
Il est fort. Hein.
Donc, message de ton papa, tellement mignon. Et j'adore le départ. Il te dit, voilà,
collègue.
C'est bon, ça.
Ouais, c'est vrai que
ce que tu dis tout à l'heure, quand il te donne les clés, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est hyper. Enfin, qu'est-ce qui peut avoir de mieux pour toi, actrice, que ton papa, qui est un acteur, réalisateur, te dise collègue, quoi. C'est au même niveau, c'est beau, hein.
Non, c'est beau, c'est beau, mais c'est vrai qu'il l'a fait dès le début et. Il ne l'a pas fait quand j'étais plus jeune, mais donc il s'est bien rattrapé.
Sciences Po. Oui, Hippolyte, elle n'a pas fait Sciences Po.
Eh oui, voilà. Mais,
il dit qu'il est fier de toi.
Oui, il le dit. Oui, alors vraiment, là, je ne sais pas s'il a fait une psychanalyse un jour ou il a fait un travail sur lui, en tout cas. Mais alors, il n'est vraiment pas avare de... Je me souviens, là, vendredi dernier, j'étais au César. Je flippais. Et m'avait envoyé un message avant en me disant « Anna, sache que quand tu arrives dans cette salle, les gens te respectent, les gens t'aiment, les gens t'admirent, les gens savent qu'ils ont une travailleuse devant elles. » Enfin, tous les mots, en fait, que...
Là, t'es rentré, t'étais rempli de...
Ah, mais c'est... Mais je me suis dit, mais quelle générosité. C'est trop beau, c'est beau de dire ça. C'est gentil. C'est au-delà d'être gentil, c'est... Il est fort. Il est père de 4 enfants, hein. C'est normal aussi. C'est l'expérience qui commence à rentrer. Hein.
Merci, merci, Hippolyte. 2014, moi, à un moment, moi qui adore le théâtre, qui vais très souvent au théâtre, moi, je suis étonné. Je te vois une fois sur les planches, on est en 2014, c'est Nicolas Briançon, là, t'as pas pris non plus n'importe qui, tu joues dans Roméo et Juliette, à côté de Nils Schneider, donc c'est Nicolas Briançon qui met en scène. Pourquoi t'acceptes ça? Pourquoi je te revois plus après? T'as pas aimé? C'est dur? C'est pas ton truc? Tu te sens pas... C'est difficile, hein, c'est pas du tout le même métier.
On m'a réinvité récemment, il se fait un an que j'ai déjà refusé 4 fois une pièce.
La même pièce?
Non, pas la même.
D'accord, 4
pièces
différentes.
Et 4 fois où je me suis dit, ah, dis donc, ça veut dire que les gens, ils ont envie de me réinviter au théâtre. Moi, j'ai pas cette formation de théâtre, à la base. Donc, j'ai pas de famille de théâtre. J'ai pas, comme je vois Benjamin Laverne et Pierre Ninet, ils ont fait le théâtre ensemble. Ils ont ça. J'ai pas du tout ça. Donc, Roméo et Juliette, c'était une expérience extraordinaire. J'ai aimé tout. J'ai aimé l'attente dans les coulisses, le travail avec les autres acteurs, le travail sur scène, la sensation d'être sur scène. Mais je me suis tellement aussi après investie dans chaque rôle que je faisais à me dire next step, next step, next step pour les films, que le théâtre, c'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est 3 mois de répétition en moyenne, puis ensuite au moins 5 à 6 mois sur scène et après une tournée d'un an. Donc c'est
un hiatus d'un an.
Voilà.
Si ça fonctionne.
Si ça fonctionne, c'est un an. Et alors oui, il y en a qui tournent la journée à Paris et qui vont le soir jouer.
On en a eu ici, hein, Roche Dizem le fait, Yvan Attal le fait. Et ils disent à chaque fois, hein, d'ailleurs, d'ailleurs, ils sont très honnêtes, c'est certainement pas là où on va gagner de l'argent parce que c'est
pas. Ah non, mais ça, c'est pas un problème.
On était au théâtre, on va passer à Nom idéal de Yann Gozlan, Ce qui nous lie, et de moi, de Cédric Capiche, on en parlait tout à l'heure. La prochaine fois que je viserai le cœur de Cédric Anger, la maison d'Anissa Bonnefond, je sais que c'est un projet pour toi qui était très important et très transformateur aussi, de montrer un autre visage, pas qu'un visage.
Je venais de faire une série qui s'appelait Totem, que j'aime beaucoup d'ailleurs, par ailleurs, avec Neil Schneider, et où je faisais la femme de Neil Schneider. Et j'en avais marre. J'adore Nils, mais je voyais les scènes que Nils avait à faire. Je disais, oh là là, ça a l'air génial quand même ce qu'il fait. Pourquoi moi je... Et le personnage, spoiling alert, meurt à la fin de la saison. Et je me souviens, j'avais peur en plus de jouer. J'avais pas trop comment jouer la mort. Et puis, en fait, je me suis dit, Anna, en fait, c'est ça. C'est la mort des femmes d'eux. Et avec elle, bah, tu enterres ton air justement de femme d'eux. Et tu vas commencer autre chose. Et du coup, j'ai commencé par la putain, hein, parce que après la maman, la putain. Et à partir de la maison, je n'ai fait que. Et jusque-là, je réussis à.
Tes films de. Voilà. Tu n'es plus.
J'ai dit ça, j'ai fait des petites entraves à ma propre règle, mais c'est pas grave.
Il y en a plus, on va dire. Il y a plus de rôles où tu es le personnage existant, pas.
Ou alors un personnage à contre-emploi de là où on m'attend, justement.
Donc là, on va aussi parler de ce que tu as pu faire avec ton copain Jonathan Cohen.
Ouais.
Où là, quand on parle de contre-emploi, ce qui est quand même la force de Jonathan
merci
Cohen.
Merci Jonathan Cohen.
Encore un merci ici. Où là, au début tu dis non, c'est pas moi, tu dis c'est pas possible. Là on parle du flambeau, raconte-nous.
La flamme,
la flamme d'abord.
Je me souviens, j'étais. En fait, c'est marrant, mais c'est toujours. Moi, je crois aux listes, je crois aux projections, je crois à la manifestation, j'y crois très très fort. J'essayais de l'expliquer à mon père l'autre jour. Je prenais un peu pour une folle, mais après, il m'a dit bon, en même temps, ça a l'air de marcher sur toi, peut-être qu'il faut que je t'écoute. Mais la manifestation, je me souviens, j'avais dit à mon agent j'aimerais bien faire de la comédie. Puis il me fait lire 2-3 comédies, puis ça me tombe un peu des mains. C'est pas mon humour, c'est pas le film que j'aime. Et puis je dis bon, écoute, c'est pas grave, on va attendre. Il faut attendre la bonne comédie. Et je me souviens, je suis à Marseille et je dis à Oscar, je crois, je lui dis moi, tu vois, je sais. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse une comédie avec Jonathan Cohen, parce que bah, Jonathan, il a exactement l'humour que j'aime. Et bah, 2 mois plus tard, mon agent m'appelle et me dit, écoute Anna, Jonathan cherche un rôle, enfin quelqu'un pour faire Anne. Il va voir beaucoup de gens, mais il a envie de te faire lire. Et là, je lis et chaque page, les larmes tombent, je ris tout le temps. Je ris. Et je prie le ciel pour que Jonathan dise oui, il me donne le rôle. Et là, il m'a changé un peu plein de choses parce que déjà, j'avais jamais fait de l'humour, enfin, j'avais jamais fait de la comédie. Et je découvre en fait que j'aurais dû en faire beaucoup plus tôt. J'aurais dû faire que ça en fait.
Que t'aimais ça.
J'aime ça, mais carrément, je...
Tu penses, tu te vois bonne.
Ben, en fait, je me rappelle de moi qui dit à mon père dans la cuisine, je veux être clown. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être ça qu'il fallait que je fasse dès le début. Parce que j'y trouve toute la joie du jeu en fait.
Et tu penses que c'est parce que tu penses qu'il y a un certain snobisme qui dire que la comédie, c'est pas de l'arrêt d'essai, le snobisme,
oui.
Par rapport à ça, que tu dis juste, tu as voulu mettre un peu loin de...
Bon,
de...
C'est que j'ai voulu commencer, puis j'avais ce... On me disait, tu es éthérée. On me disait tout le temps, éthérée.
Ouais.
Et puis du coup, je faisais des rôles de femmes éthérées.
Éthérée.
Et donc, éthérée, c'est pas drôle. C'est pas comique, les femmes éthérées. Donc, j'ai fait des rôles plutôt dramatiques. Et voilà.
Stop. On arrête les films, des rôles dramatiques... On arrête ces femmes deux éthérées Et c'est ce moment-là où tu commences à avoir une autre version de toi, mais certainement, encore une fois, je dis souvent dans Pause, c'est peut-être la vraie version de toi, pas la meilleure version de toi, la vraie version de toi, celle qui te fait le plus plaisir, celle qui démontre ce que t'aimes et ce que tu es vraiment. On continue à en parler du cinéma. Tu fais une fois une incursion en dehors des frontières, je crois que c'est un film qui s'appelait Paradise Lost, d'Andreas Di Stefano. Ça t'a donné une autre ouverture en disant juste, tiens, j'aimerais bien faire autre chose, parler anglais dans ce monde-là. Est-ce que ça t'attire profondément les États-Unis?
Moi, j'ai fait mes écoles à New York.
Je sais bien.
Moi, j'ai quitté les États-Unis juste parce qu'il n'y avait plus d'argent. Sinon, je serais encore là-bas.
Tu n'es pas resté 10 ans là-bas, quand même. Tu veux dire, tu es resté 2 ans.
Si j'avais pu, je serais resté 3 ans.
Dans la bucket list qui est la complémentaire de celle que tu avais faite, tu dis, moi, je veux absolument à un moment ou à un autre faire le Barbie 3 avec Robbie dans le futur.
Oh my God, yes!
Yes! Ok, on peut switcher
English. Los Angeles, ça fait toujours partie de la bucket list familiale.
Tu comprends bien le système. Hein, pour réussir là-bas, ce ne sera pas de Paris. Il faudra que tu habites là-bas, que tu partes là-bas. Ce qu'a fait Omar Sy, ce qu'ont fait d'autres. Hein, Gad Elmaleh, prenons l'exemple de Gad Elmaleh, qui a réussi, que moi je trouve, de manière exceptionnelle en allant là-bas. Donc, ce serait une possibilité.
Oui, mais c'est vrai que là-bas, alors déjà, en plus, les Américains, tu tournes pas là-bas. Donc, c'est vraiment pour vivre, c'est très cher. Donc, moi, mon rêve maintenant, c'est de pouvoir y aller pendant une certaine période pour écrire. J'ai trouvé la solution. J'ai craqué le code, en fait. La bonne solution pour pouvoir emmener ma famille là-bas et vivre au moins entre 6 mois et 1 an, c'est avoir un projet d'écriture.
Et on va y revenir parce que tu travailles sur un projet, ton projet, où tu écris justement un projet qui sera un film. On va y revenir, on va attendre, on va laisser un peu les auditrices et auditeurs se demander qu'est-ce que ce projet-là sur lequel tu vas aller passer du temps aux États-Unis. Mais on va s'arrêter 2 minutes et on va faire une nouvelle pause qui va être une pause cinéma.
Ah.
Le film qui t'a donné envie de devenir actrice.
Faut pas prendre les enfants du pendu pour des canards sauvages d'Audiard avec Marlène Jobert.
Le stéréotype sur les actrices qui t'énerve le plus?
Qu'on est complètement prétentieuse. C'est pas... Moi, on me dit souvent, mais t'es très simple, en fait. T'es pas comme une actrice, je m'en arrive pas avec un carrosse et des paillettes partout. On est plutôt...
C'est l'image qui est donnée, en fait.
Moi, j'adorerais. Hein. Arriver toujours avec mon grand manteau en disant, ça va, oui, vous allez bien. Moi, j'ai...
J'ai l'impression de voir Fanny Ardant.
Oui, voilà. Mais Fanny Ardant, je me demande toujours, est-ce qu'elle se lève comme ça? Est-ce que c'est...
En tant qu'actrice exceptionnelle, Fanny Ardant.
Ah non, mais elle est extraordinaire. Et moi, je me demande si elle est tout le temps... On m'a dit que oui.
Et on ne va pas donner son âge, parce que ça ne se fait pas.
Non.
Mais elle n'a pas 40 ans. Hein. C'est exceptionnel. Elle a une beauté et une fraîcheur.
Et
d'un talent. J'adore. Ça me voit. Oh là là. Allez, on continue. Ta réplique de film préférée?
C'est encore une phrase d'Audiard, parce que c'était quand même le meilleur dialoguiste. Je crois que c'était « Eh ben dis donc, si les cons devaient tourner en orbite, t'aurais pas fini de tourner. »
Le meilleur film de tous les temps pour toi?
Alors, celui que j'ai le plus regardé, c'était avec Steve McQueen.
Ah
c'est
oui, La Grande Évasion.
La Grande Évasion.
Oh là là.
J'adore La Grande Évasion. Est-ce que c'est le meilleur film du monde?
T'étais amoureuse, comme beaucoup d'autres, de Steve McQueen
pendant des années.
Ah oui, c'est vrai. Le film qui te fait pleurer à chaque fois?
Il y a une scène qui me fait pleurer, même quand je la vois en extrait. C'est Jacques Villeray, dans Le Dîner de cons, qui va voir sa secrétaire et qui lui dit « Je mets laquelle ?» en parlant de sa cravate, et qui est tellement excité d'aller à ce dîner où on va complètement se foutre de sa gueule. Bah, moi, ce genre de choses, ça me fend le cœur en deux. Ou des scènes de films où le père a offert une nouvelle chemise à son fils, et ils sont trop contents, ils le remercient, puis il arrive, et puis à l'école, il se fait harceler, et on lui déchire sa chemise.
Toi, t'es sensible.
Oh là là là,
toi, t'es très sensible.
Ça me détruit.
Le meilleur acteur, selon toi? Du monde. Allez, américain.
Du monde.
Américain, vas-y.
Bradley Cooper.
Oh là, on est d'accord. Français.
Pierre Niney. Je trouve que Pierre Niney...
Et on me dit souvent ça, comme ici. Hein.
Mais non, mais Pierre, il a un truc. C'est-à-dire que dans l'humour, il est assez génial.
Il fait
dans
tout,
notre
en fait,
drame,
c'est ça.
Il est génial. Tout. Mais non, mais il a ce côté acteur complet.
Virtuose, en fait. On disait, tu vois, Isabelle Nanty disait la même chose. Virtuose.
Virtuose.
Ouais, au-dessus de beaucoup.
Et puis, il a une compréhension du métier qu'il fait, des autres.
La meilleure actrice, selon toi?
Catherine Deneuve, Marion Cotillard.
Marion Cotillard, oui.
Virginie Fira.
Fira, oui.
Isabelle Huppert.
Et aux US, pour toi?
Aux US, Meryl Streep. C'est quand même extraordinaire. J'ai revu la semaine dernière avec...
Dusty Hoffman. C'est pas celui-là?
Non, le pont de Madison. Mais c'est fou. Oui. C'est fou tous les détails qu'elle donne. Après, aujourd'hui, il y en a tellement des actrices extraordinaires qui font un travail de dingue. C'est là, ils ont de la technique. Hein. Ils sont forts aux États-Unis quand même. Julianne Moore, j'adore. On adore.
Pour terminer, un film international, pas français, dans lequel tu aurais adoré jouer.
Wow. La liste va être très très longue. Favorite de Yorgos Lanthimos. Les actrices ont eu l'air de s'être éclatées. Barbie, Oppenheimer. Attends, je réfléchis à juste, je vais te faire la liste de tous les films américains.
Oppenheimer, c'est assez dingue. Tu t'accepterais, toi, en parlant de rôle, de jouer une James Bond girl?
Hein? Bien sûr. C'est mon rêve ultime. Oui, je vais pas te mentir, Alexandre, c'est mon rêve ultime.
Voilà. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est un cliché, que c'est des jeunes femmes plutôt belles, même très belles, éthérées, peut-être pour certaines. Fort
oh, elles sont pas très éthérées.
Non, elles sont pas très éthérées. Mais oui, donc, mais oui, la réponse est oui.
Eva Green dans Casino Royale, elle est tout sauf éthérée. Hein.
C'est une évolution, certaine.
Non, mais il y a l'évolution qui va avec. D'ailleurs, James Bond a évolué. Enfin, même le cliché du James Bond a évolué.
On va voir le prochain. On verra qui sera le prochain. Ça sera intéressant.
On parle de Nepo Baby, par exemple, en Californie, à Los Angeles. Mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à ces enfants d'être entourés que par des artistes? Donc, à un moment donné, forcément, tu baignes là-dedans. Si on t'a permis, très jeune, d'expérimenter ta fibre artistique, il semble un peu logique que tu continues dans cette lignée.
Danny Boone, qui est réalisateur et acteur, il me citait ici, au micro de pause, une citation qu'il avait vue au cours Simo quand il y était. Il a eu une histoire assez incroyable, avec vraiment pas d'argent, et aller au cours Simo et devoir, après une rencontre de quelqu'un qui lui a changé son existence. Cette phrase de Goethe, « La vraie gloire est de durer ». Est-ce que, qui est un vrai sujet chez beaucoup d'actrices et d'acteurs, c'est... J'ai ce moment de gloire maintenant, est-ce qu'il durera éternellement? Toi, comment tu le vis, ce sujet duré? C'est à force de faire, il y a certains acteurs et certaines actrices qui font 3 films par an, c'est tourner, c'est quoi pour toi?
Non, je pense qu'il ne faut pas tourner, parce que il ne faut pas fatiguer non plus, il ne faut pas... Il y a tellement d'exemples, il n'y a tellement pas de règles.
Bah, Virginie Efira, j'ai l'impression de l'avoir tout le temps à l'affiche.
Oui, mais jusqu'à ce qu'elle ait un certain âge, tu la voyais nulle part. Et après un certain âge, tu la voyais que dans certains registres. Quand elle a décidé, après 20 ans d'écart, d'arrêter la direction dans laquelle on l'emmenait, qui aurait peut-être pu la faire tout d'un coup disparaître petit à petit, et dire non, 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 moi je veux autre chose. Et que pendant 2 ans, elle n'a pas travaillé, et qu'elle a refusé des rôles. Et elle le dit elle-même. Moi, quand j'ai arrêté, Paul Verhoeven, il n'avait pas mon numéro de téléphone. Et qu'elle continue à croire en elle, et à croire en sa capacité. Elle devient la Virginie Efira qu'on connaît, mais c'est un travail, c'est une réflexion, c'est un choix
de dire non.
C'est du travail. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, il s'est passé quelque chose. C'est en 2020, moment où je suis tombée enceinte, mais un peu avant même, justement, un peu pour contrer cette sensation que j'avais de faire des femmes, de rentrer dans une case à laquelle j'étais... C'était encore plus difficile de sortir. J'écrivais, mais là, j'ai écrit un court-métrage que j'ai fait lire. Et j'ai trouvé 2 producteurs qui ont voulu m'accompagner. Et Canal, qui a voulu m'accompagner. Et même Chanel, à l'époque, qui avait voulu m'accompagner. Puis il y avait une autre maison de couture italienne qui a décidé de m'accompagner avec un très, très, très gros chèque que je ne pouvais pas refuser, mais qui refusait que Chanel fasse partie de l'équipe. Et donc, on m'a dit, tu vas réaliser ton premier court-métrage. Et quand j'ai réalisé ce court-métrage à Venise, que ce soit au moment où j'ai écrit, cherché de l'argent, réalisé, monté, j'ai passé un plaisir, enfin j'ai ressenti une joie complète. C'est-à-dire que toutes les frustrations que je pouvais avoir quand je jouais, là, elles n'existaient plus. J'avais l'impression d'être à ma place, je ne sais pas comment dire, que ma boussole interne, elle était là où il fallait. C'est-à-dire que mon énergie, je l'exploitais bien. Je savais, j'avais une énergie d'ailleurs incommensurable. Moi qui, quand je suis actrice, je fume, le soir je bois. Là, il n'y a plus une goutte d'alcool, il n'y a pas une clope. C'est, je suis nourrie par ce que je suis en train de faire. Et ça, ça a été juste la révélation de ma vie. Il s'avère que c'est la même année où j'ai eu mon fils, qui était aussi une révolution dans ma vie. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais, et je pense que le confinement aussi est arrivé à ce moment-là. Et en fait, le confinement à ce moment-là, moi, m'a fait cet effet de me dire, en fait, j'aurai toujours ça. J'aurai l'écriture et la capacité d'aller vendre des projets et de les monter. Et donc à partir de là, je ne dépends plus du désir des autres. Je ne dépends plus du désir de l'attente des autres. Je suis mon propre moteur.
Tu écris donc ton propre scénario. C'est, oui. Tu écris ce qui va être le mieux pour toi et ce que tu as envie de faire. C'est un bon passage à cette prochaine question qui nous pose amicale. On va l'écouter et on parlait tout à l'heure de ce projet que tu as d'écriture. On écoute.
Chère Anna et Céline, je voulais savoir comment c'était ton rendez-vous chez Studio Canal. Je t'embrasse très fort.
Céline Salette. Céline Salette. Céline Salette.
Qui te... Je suis très surprise de t'aimer comme ça, pardon. Non, parce que Céline Salette, qui, je pense, va faire un film extraordinaire sur Nikki de Saint-Phal.
Elle était ici pour nous en parler. Elle est ici pour nous en parler. Donc, elle a passé, ça fait beaucoup de temps qu'elle est sur ce gros projet, grand projet pour elle, qui est un projet qui l'anime.
Qui l'anime énormément. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle part de ce projet avec tellement de force et c'est vrai que je l'avais croisée une année à Women in Motion, qui est une soirée chez à Cannes, et c'était au moment où justement elle venait de signer, je crois, avec son producteur le film ouais. Qu'elle allait le faire, et puis on est dans la voiture ensemble en rentrant et je lui dis waouh, Céline, mais quelle éclate et tout. Et moi, j'avais pas encore fait un peu mon coming out de je veux réaliser. J'avais l'impression que c'était un peu impossible d'être actrice et réaliser, que même si j'avais fait mon court métrage quelque part, j'étais pas encore légitime du tout de le faire. Et elle m'a dit oui, Anna, mais toi aussi, tu sais que tu vas le faire, ton film.
Boum. Et aujourd'hui? On repart, on peut repart.
Et aujourd'hui, cette phrase, il y a des phrases comme ça qui sont des cadeaux de soutien, parce que on sait pas le bien que ça fait, parce que on se dit putain, elle croit en moi.
T'as pensé ça quand elle te l'a dit?
Bien sûr, je me suis dit ok, vas-y, je garde ça comme un énorme cadeau.
On peut parler de ce projet. Est-ce qu'on peut en parler deux mots, ou tu te préfères pas en parler aujourd'hui? Qui est l'histoire de cette personne
sur laquelle... C'est un biopic sur un personnage féminin majeur dans l'histoire du cinéma.
Mais pas connu.
Mais malheureusement pas connu. Qui commence à devenir de plus en plus connu, mais qui est resté beaucoup trop longtemps, et même de son vivant, absolument inconnu, alors que c'est clairement
spoliée, en fait c'est une femme, c'est ça, hein,
elle était spoliée
par des hommes, ouais, sur un travail qu'elle avait fait. On, ouais, va pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas
ceux qui sont cinéphiles, ils vont savoir.
Merci Céline, parce que c'est magnifique, des émotions. Et Céline, c'est une femme que j'aime beaucoup, qui, pour reprendre ce qu'on dit tout à l'heure, a fait des rôles contrairement, ouais, très éloigné de ce
qu'on veut.
Une actrice exceptionnelle, elle fait des choses qui sont vraiment qu'elle veut faire, et elle est vraie. On continue, on parlait de jazz, ton fils. Oui. J'avais une discussion avec Roche Dizem, ouais, acteur qui est incroyable, qui me disait ces choses suivantes, hein, à ce micro. Elle me disait, si l'un de mes deux enfants était devenu comédien, je ne sais pas si tu l'avais entendu, oui, j'estimerais avoir échoué dans mon éducation. Il s'est fait que... parce qu'il disait, acteur, ça reste un truc de loser, il disait ça un peu, il est tensé un peu. Toi, vous, avec Oscar, quand tu vois jazz, est-ce que tu dirais la même chose, ou tu penses qu'il y aurait une lignée, qu'à force d'être entouré d'artistes comme vous êtes avec Oscar, est-ce que ça sera certainement une logique Une continuité ?
Moi, je pense qu'on parle de Nepo Baby, par exemple, en Californie, à Los Angeles. Mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à ces enfants ? C'est d'être entourés que par des artistes. Donc, à un moment donné, forcément, tu baignes là-dedans. Si on t'a permis très jeune d'expérimenter ta fibre artistique, il semble un peu logique que tu continues dans cette lignée. Si d'un coup tu dis non, je veux être comptable, et bah très bien, soit.
Sois comptable.
Mais j'adorerais qu'il soit créatif jazz. Je l'ai appelé Jazz Louveau pour pas que. Il s'appelle Jazz Jean-Paul Jacques Louveau. C'est pour qu'il soit justement créatif. Tu as toute la possibilité.
C'est ton passage à la Nouvelle-Orléans qui t'a fait l'appeler
ça
jazz.
Ça fait partie des inspirations pour lesquelles on l'a appelé jazz.
Notre enfant, est-ce parce que là, on parlait tout à l'heure du théâtre qui allait te prendre un an loin du cinéma. Est-ce que ça arrive à nouveau ? Là, les hommes n'ont pas à faire ce choix-là. Les femmes ont à le faire, ce choix-là, que ce soit des artistes, des sportives, de décider à un moment ou à un autre à quel moment ils vont peut-être se mettre un peu de côté. Toi, c'est un sujet, c'est une discussion. Est-ce que tu auras envie quand même d'avoir un petit frère, une petite sœur pour jazz ?
Bien sûr. Alors, je m'en doute que ça va devenir plus sportif. J'ai la chance d'avoir un partenaire qui me dit tout le temps, fais tes projets, va, si c'est 8 semaines ici, 8 semaines là, ne t'en fais pas, je suis là. Ça, c'est une chance énormissime. J'imagine qu'un couple, par exemple, d'acteurs, y en a un forcément qui doit faire un sacrifice. En général, c'est souvent la femme. Mais bon, voilà, ça, c'est un petit détail.
Dit.
Mais évidemment, j'ai envie d'une famille nombreuse, je trouve ça vraiment joyeux. Et puis, moi,
c'est quoi le nombre d'enfants que tu as envie? Tu verrais comment.
3, je trouve ça assez génial.
Ça commence à être une vraie
Mais déjà fratrie. 2, ou 1, déjà, attendez, 1, ouais, moi, un, je trouve déjà génial. Mais j'ai été très inspirée sur La Flamme, je me souviens, Céline Salette qui elle était encore quand elle a tourné, Leïla Bekti qui a 3 enfants, toutes elles avaient
un autre.
Et ça ne les a jamais empêchées. Meryl Streep, elle a 3 enfants. Julia Roberts, elle a 3 enfants, dont 2 jumeaux. Pardon, mais en fait, je me dis, les enfants ne sont pas des empêchements.
Jamais. On termine par...
Oh, s'il vous plaît, encore une pause.
On termine par une pause. Mais cette pause, en fait, c'est un petit exercice. C'est un exercice dans mon livre Pause, justement, qui s'appelle Pause pour une vie alignée. À la fin du livre, je donne une dizaine d'exercices pour chacun à faire.
D'accord.
Et donc, on va prendre quelques-uns. On commence. Des choses simples, tu vois. Moi, j'aime bien parler des petits plaisirs du quotidien.
Mm-hmm.
Des choses hyper simples que les gens disent, mais attends, c'est forcément des grands trucs pour être heureux. Non, pas du tout, c'est des petites choses. Moi, manger un Mont Blanc, tu vois,
ouais.
Moi, c'est un petit plaisir. Je sais que ce soir, je mange un Mont Blanc, j'ai la banane. Tu veux dire, des choses assez simples que ça. C'est quoi, si tu veux me citer, toi, 1 ou 2 petits plaisirs, des choses toutes simples où tu sais juste y penser, t'as la banane.
Moi, j'adore quand mon mari m'emmène le café au lait le matin. Ça fait partie des plaisirs qui me permettent de me lever.
Tout petit plaisir, c'est génial.
J'adore, par exemple, là, je vais rentrer, j'adore me faire une demi-heure de musique dans les oreilles et de danser pendant une demi-heure. Ça fait partie de mes joies.
Danser ?
Ouais.
Quelles sont, selon toi, tes 2 plus grandes qualités ?
Ma détermination.
Qui est à Paris un peu tard, donc c'est ça qui est intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent. C'est pas, t'es pas obligé d'être déterminé à 10 ans, hein. Ça prend du temps potentiellement.
Oui, ça c'est sûr.
Détermination.
Détermination compréhension. Je sais pas comment dire.
Je t'as l'écoute en fait. Tu.
Bah non, mais je me dis toujours que les autres, ils ont des situations. Enfin, tout le monde a des vies très compliquées et que je vais pas.
Quelle est la limite que tu vas te donner ? Quelles sont les 2 limites ? Les 2 limites, tu dis juste, ça c'est mes limites, je sais que ça...
Ah, c'est quand je réfléchis trop à ce que les gens vont penser et que les gens vont me juger et dire « Non, elle ne mérite pas ça. » Ça c'est ma limite.
Tu penses trop. Overthink.
Ouais.
Souvent.
Ah oui.
C'est pour ça que tu as besoin d'être dans l'action, en fait. C'est, reviens sur le
sujet
de départ.
C'est pour ça, c'est
pas dans l'action.
Pour... Je peux pas m'arrêter, sinon c'est trop de questions.
Quelles sont, et on en a parlé, mais pendant ce moment ensemble, quelles sont les 3 personnes que tu ne pourras jamais remercier assez ?
Oscar, Sheila Gray.
Ouais.
Il y a beaucoup d'amis là qui passent.
Oui, qui vont pas être contents là.
Ouais. Du coup, je vais en citer aucun comme
Allez,
ça.
On reste à 2 alors.
Et puis, Monsieur Guez.
Monsieur Guez.
Ouais.
Allez, Monsieur Guez. On parlait de moments difficiles. Toi, quelle est vraiment une grande blessure ? Moi, c'est la perte de mon frère, tu vois. Il y a 7 ans de ça. Et ça m'a obligé à penser les choses différemment, de faire un travail que je n'aurais pas imaginé. Sinon, est-ce que tu as eu des grandes blessures dans ta vie ? Et raconte-nous aussi pour les gens qui nous écoutent. Dire, ouais, tu peux quand même avec des grandes blessures. En faire quelque chose. Tu le vois ça ? Tu vois le verre à moitié plein après une grande blessure ?
Ouais, Après, le deuil, c'est quelque chose qui se... On ne peut pas dire, mais si, il faut t'en remettre. Ça, je ne me permettrai pas de parler pour les autres.
Toi, tu as déjà perdu quelqu'un de très proche ?
Il y a deux personnes que j'ai perdues qui ça m'a bouleversée, ça m'a brisé le cœur de les perdre. Et évidemment, aussi ma grand-mère, qui était une femme très, 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 très importante dans ma vie. Mais je sais pas, aussi après, je me dis toujours, ils sont encore là. Donc,
tu crois vraiment... à ça, toi ? Tu crois à l'âme qui survit ?
Ouais.
Ouais ?
Ouais. Beaucoup.
Ouais, c'est chouette.
Je crois à ces êtres qui continuent de danser et de d'être heureux à faire vivre leur âme et à nous envoyer à nous les chanceux des messages, des détails, des choses.
Tu as des messages comme ça ? T'as eu des messages de ta grand-mère parfois ? T'as eu des messages de...
Ouais. En tout cas, moi, j'en envoie quand je peux, mais...
Une chose que tu aimes faire, mais où tu n'es pas bonne ?
Le chant. Non, mais sincèrement, j'adore chanter. Je ne suis pas encore bonne. Mais je vais prendre ces cours de chant pour pouvoir chanter.
Une chose que tu n'aimes pas faire ou tu es bonne, selon toi ?
Oh ! Ça m'étonnerait, parce que si je suis bonne à quelque chose, je vais adorer le faire.
Et on va terminer par une pause musicale.
Oui.
Quelle est ta chanson culte ?
Moi, j'adore « Don't Stop Me Now » de Queen.
On en écoute un extrait. Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. You shouldn't start leaping through the sky. Defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur des réseaux sociaux, quelque chose? Tu regardes, il y a des choses qui...
Oui, je regarde.
Temps en temps. C'est quoi, toi, plutôt? Instagram
Moi, j'ai que Instagram.
T'as que Instagram.
Ouais.
T'attends de lui répondre de temps en temps? Tu tentes de temps en temps?
Je suis désolée parce que parfois, il y a des messages, il y a plein de messages où on me demande depuis Anne de la Flamme des messages d'anniversaire. J'ai ma copine, c'est son anniversaire, est-ce que ça pourrait avoir un message de Anne et tout? Au début, je m'étais dit, oh, vas-y, je vais le faire. Puis en fait, j'en ai reçu beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis dit, non, je ne vais pas faire tous les anniversaires non plus. Du coup, j'ai décidé de malheureusement pas répondre à
ça. Donc, ne demandez pas le message d'anniversaire parce que nous ne l'aurez pas, mais en revanche, peut-être que vous pouvez contacter Anna donc sur son Instagram, qui est lequel?
Oui.
C'est quoi?
Girardo Anna. Voilà, tout simplement. Mais par exemple, moi, j'ai une jeune fille, Nastasia, qui m'avait écrit sur Instagram il y a longtemps maintenant. Elle faisait des études de droit et elle voulait faire du cinéma. Et elle se posait la question, je fais du cinéma, des études de droit. Puis on a commencé à converser. Elle continue à écrire et puis elle continue à faire du droit. Puis un jour, elle me dit, je me lance, je veux faire de la prod. Et puis on s'est écrit, puis on s'est vu à une avant-première, puis on a continué à s'écrire. Et après, elle a travaillé dans une boîte de production. Et sur ma fiction sonore Babyphone, que j'ai faite pour Canal+, je l'ai engagée comme secrétaire de production. Et aujourd'hui, on est encore en contact et je sais qu'on continuera à travailler ensemble. Et tout ça a commencé sur une conversation sur Instagram.
Donc Instagram amène à beaucoup de choses.
Oui.
Anna ?
Oui,
merci pour ton temps.
Merci à toi pour ton temps. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.